Là, on peut remarquer par exemple celle qui se déplace, que leurs bras font d'une fois et demi les jambes. Et on peut remarquer aussi qu'au niveau de leur patte arrière, donc de leurs pieds, ils ont un pouce opposable, le même pouce que nous, nous avons à la main, et on dit même qu'ils ont quatre mains. Donc là, on voit très bien sur celle qui se déplace, elle utilise aussi bien les pieds que les mains. Donc les orang-outans vivent en moyenne 30-35 ans dans la nature, ça va être plutôt 40-45 en parc biologique, puisqu'ils ont des soins lorsqu'ils sont malades. Et actuellement, le plus vieux a 121 ans en Hollande, et le record a été détenu il y a 2 mois dans un zoo au Japon, où un individu est mort à l'âge de 59 ans. Donc les orang-outans, sont des animaux végétariens, c'est-à-dire qu'ils mangent des fruits et des légumes. Il leur arrive également de manger des écorces et beaucoup de feuillage. Ici, à la ménagerie, ils ont 4 repas par jour, avec notamment le matin 4 sortes de légumes, 2 sortes de fruits et une ration de croquettes afin d'avoir tous les compléments alimentaires. Première chose à savoir, nous n'avons aucun contact direct avec les orang-outans. Les orang-outans sont très gentils, ne sont pas du tout agressifs. Cependant, ça reste des animaux sauvages, on ne peut pas connaître leur réaction. Et surtout, en plus de cela, ils ont 7 fois la force d'un homme. Donc si on venait à l'entrée, ils pourraient tout simplement vouloir jouer, parce qu'on a quand même une très bonne relation avec eux. Mais un geste très gentil pour eux pourrait nous faire très très mal, donc aucun contact. Tout se passe à travers les portes grillagées que vous pouvez voir au fond de la loge. Nous, on ouvre la porte claire, on vient leur parler à travers les grilles. Car oui, nous parlons à nos orang-outans, ils comprennent beaucoup de choses. On estime qu'ils ont l'intelligence d'un enfant de 4 à 5 ans. D'ailleurs, grâce à cette intelligence, on a mis en place ce qu'on appelle le croc. Donc je viens de vous le dire, ils ont énormément de force. Ce qui signifie que malheureusement, parfois, ils réussissent à nous dévisser quelques structures. Donc notamment les sacs câbles qui tiennent les cordes, ils adorent ça. Et bien sûr, lorsque ça arrive, on ne peut pas les laisser avec ces objets dans les mains. Donc ils adorent rayer les vitres avec après. Donc on va leur demander de venir nous les rendre. Eux, bien sûr, ne veulent pas le faire. Ils ont passé un maximum de temps à essayer de tout démonter. Donc, on va leur présenter un morceau de fruit, quelque chose de plus appétant, comme des céréales. Et ils comprennent très bien que s'ils viennent nous rendre l'objet, alors, en échange, ils auront le morceau de fruit. Donc, parfois, ça prend quelques secondes, parfois quelques minutes, mais ils finissent toujours par nous les rendre.
Yes. Bonjour. C'est un animal que j'ai assisté pour avoir, qui était très important pour moi, mais que je n'ose pas ramener chez moi parce que il est chez mes parents et il est dans un endroit où, chez mes parents, chez ma mère maintenant, la maison elle est très habitée par des animaux. Très petit, enfin pas si petit que ça, mais relativement petit, plus grand que ceux de qui je vais parler là. Mais disons, il y a beaucoup de mythes. Et Mr. Stoop, c'est très habité, donc en fait, je n'ose pas l'amener, mais je l'ai pris une fois en photo et c'est comme ça que j'ai pu vous le montrer. Donc voilà, ça c'est un. Je pense qu'il va avoir peur. Ça c'est un singe qui a appartenu plutôt à. Quelqu'un qui est dans l'assistance et qui n'a pas de mythe. Voilà. Donc, je voudrais vous lire, grâce à l'invitation de Suzanne Doppel, je ne vais pas y arriver. Donc là, je voudrais vous parler d'animaux qui sont ici, mais qui ne sont pas nourris, logés par des gardiens. Ce sont des animaux qu'on a beaucoup et qui sont beaucoup. Qui me suivent beaucoup. Enfin, c'est pas qu'ils me suivent, c'est qu'ils sont en fait un peu partout. Et donc voilà. Fourmi. Dans le train, une fourmi de Paris sort de l'étui de l'ordinateur. Elle ne sait pas si elle reste dans le train après Rennes. Elle imagine que oui. Fourmi égarée, esselée, tout à coup vers l'ouest, Brest, va bien. Et si elle ne descend pas, elle rentre à Paris comme tout en France, y retourne toujours le 19 mai, mais aussi le 20 mai 2009. Les fourmis montent au ciel pour l'ascension. Elle laisse des poussières de terre et des mûres vides de la taille et forme d'un grain de riz. En bas de l'escalier, un rectangle flou marron et bombé m'arrête, comme un waterbug, bien replié. Ce n'est pas un rectangle si c'est en 3 dimensions, c'est une chauve-souris. Il s'approche d'elle avec, elle croit, précaution. Elle la capture avec un bol sur la tête. Il glisse un programme de la maison de la poésie en dessous. On fait des choses. Une griffe gêne. Elle glisse encore un carton du dernier pique-nique sous le programme. Elle ne bouge pas. Il la porte dehors avec cet appareillage. Elle enlève le bol. Elle ne bouge toujours pas. Elle est morte. Il la prend en photo avec mon téléphone portable. Elle se rend compte qu'il vient de supprimer le dossier image dans la corbeille de l'ordinateur pour libérer de l'espace. Ces mots venus du grand tailleur de la téléguerre et l'amènent plus au fond du jardin, la chauve-souris. Entre-temps, Sylvie, la femme qui fait le ménage, immanquablement non francophone, peut-être venue de l'Europe de l'Est, arrive et ne voit ni les essaims de fourmis qu'il a balayés, ni la chauve-souris morte, ex-couchée en bas de l'escalier en rectangle flou.
Je me suis dit qu'il faudrait peut-être faire aussi un salut à l'animal poète en résidence. Donc je vais essayer de faire la danse du salut de la fourmi.
Le long d'un clair ruisseau bouvait une colombe. Quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eut vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité, un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté. Ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon, le vilain retourne la tête. La colombe l'attend, part et tire de long. Le souper du croquant, avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole.
Les premières à mourir, ce sont les vaches. Aucun être vivant sur Terre n'est aussi temporaire, ni aussi précaire, ni aussi transitoire qu'une vache. Les premières à mourir de soif, ce sont les vaches. Les premières à mourir de mort, ce sont les vaches. Les toutes premières à mourir de nous-mêmes, ce sont les vaches. Et depuis, nous n'avons jamais réussi à oublier la mort certaine des vaches. Au début, l'encombrement d'une vache morte est phénoménal. Mais très vite, on peut en ajouter une, en ajouter une, en ajouter une. Nous sommes devenus à notre tour comme de toutes petites vaches assoiffées. Mais je sais très bien que la pluie est là, qu'elle est ici dans nos cœurs. Les vaches aimaient la pluie. Elles auraient pu facilement aimer autre chose comme nous, l'esprit, la méthode, la puissance. Mais c'est l'eau du ciel, finalement, qu'elles aimaient. Les vaches ont des robes pleines de ronces et de fleurs et de poudre des champs. Elles ne savent rien de l'exception de la vie terrestre sous les étoiles. Rien de l'exception de notre vie banale dans l'univers féroce, toujours plein de notre cruelle errance, avec dans la prairie tant de victoires perdues. Comment expliquer l'impression que donnent les vaches d'être traversées par la vie même, d'avoir une puissance identique à la vie, cette vie nue dans les champs, cette vie sans propriété, ce corps immense et lourd et patient des vaches. L'injustice des paysages rend si inquiétante dans sa quiétude temporelle la gratuite existence sans appel, sans justification des vaches. Les vaches aimaient s'asseoir dans le soleil et s'arroser de poudre des champs, s'asperger de poussière des talus, s'envelopper de fines particules d'insectes bourdonnants.
Certain principles must be observed. The initial impression must be from a height, but only half that which is gained from the opposite extremity looking back.
Il faut observer certains principes. La première impression doit venir d'une hauteur, mais la moitié seulement, de celle que l'on atteint à l'extrémité opposée quand on se retourne.
He watched the house, the courtiers coming in and out, the degree of the bow measured, the king and his glances, a person forsaken, once flayed itself on a blade of grass.
Il observait la maison, le va-et-vient des courtisans, mesurait la profondeur de la révérence, le roi et ses regards, quelqu'un, délaissé, s'est une fois éventré sur un brin d'herbe.
Such was the etiquette that sharpened needles by accident, a precision glittered with the proper tools, which include rules. No trees shall be planted within the premier view, only low parterres and a few arbustes cut close, so that every prospect is a little aerial. We plane above a cloisonné. We lose track of the conversation for a moment and then snap back. A garden is a sequence that has no basis in fact. At the aura, at the aurore, at the slightest sound, corona. It's a way of making nature account for the mind.
Telle était l'étiquette qui taillait ses aiguilles au hasard, une précision scintillante aux bons instruments, incluant des règles. Aucun arbre ne sera planté en première vue, seulement des parterres bas et quelques arbustes taillés ras. Pour que chaque perspective soit légèrement aérienne, on plane au-dessus d'un cloisonné, on perd un moment le fil de la conversation, puis on la retrouve vite. Un jardin est une suite sans base réelle. À l'aura, à l'aurore, au moindre bruit, couronne, c'est une façon de forcer la nature à tenir compte de l'esprit.
J'avais aussi un livre qu'un chorégraphe m'avait offert, qui s'appelle « De la destruction comme élément de l'histoire naturelle ». Ce sont des conférences rassemblées dans un recueil de W.G. Sebald. Et il y a notamment un petit endroit où il parle de témoignages qu'il a lui-même lu et que je voudrais vous lire. Des bombes incendiaires à tiges et des bombes au phosphore avaient mis le feu à 15 des pavillons du zoo. Le pavillon des antilopes et celui des rapaces, le bâtiment de l'administration et la villa du directeur avaient été complètement détruits. Le pavillon des singes, le pavillon de quarantaine, le restaurant principal et le temple indien abritant les éléphants, sévèrement ou partiellement endommagés. Un tiers des 2000 animaux restés sur place après l'évacuation trouva la mort. Les cerfs et les singes s'étaient échappés, les oiseaux s'étaient envolés par les verrières brisées. Des bruits se mirent à courir, écrit Heinroth, selon lesquels des lions avaient été aperçus rôdant autour de l'église du souvenir construite en mémoire de l'empereur Guillaume. En réalité, ils gisaient asphyxiés et calcinés dans leur cage. Le lendemain, sont également détruits par une mine aérienne les trois étages de l'élégant bâtiment abritant l'aquarium et le hall aux crocodiles, long de 30 mètres, ainsi que la forêt vierge reconstituée. Sous les blocs de ciment, sous les monceaux de terre, les débris de verre, les palmiers et les troncs d'arbres renversés, écrit Eck, les reptiles géants se tordaient de douleur ou dégringolaient l'escalier des visiteurs, tandis qu'à l'arrière-plan, par un portail éventré, s'engouffrait l'éclat rougeâtre de l'incendie qui anéantissait Berlin. Effroyables aussi les travaux de déblaiement. Les éléphants passaient de vie à trépas dans leur dortoir dur, dans les jours qui suivirent, être dépecés sur place. Les hommes se glissant dans les cages thoraciques des pachydermes et fourrageant dans des paquets d'entrailles. Ces images d'épouvante nous saisissent tout particulièrement parce qu'elle brise avec les récits stéréotypés et en quelque sorte pré-censurés qui nous sont livrés des souffrances endurées par les humains. Et aussi l'effroi qui s'empare de nous à la lecture de tels passages tient probablement au fait que nous nous rappelons que les zoos, nés partout en Europe du besoin éprouvé par les souverains, princes et empereurs d'exhiber leur pouvoir, étaient en outre censés d'évoquer le jardin d'Éden. Mais voici l'essentiel. Si ces descriptions de la destruction du zoo de Berlin qui mettent de fait à trop rude épreuve la sensibilité du lecteur moyen n'ont pas choqué le moins du monde, ce qu'elle émanait de spécialistes sachants, nous allons le voir, garder raison et même bon appétit dans les situations les plus extrêmes. Car, relate Heck, les queues de crocodiles cuites dans de grands récipients avaient le goût de poularde, avant d'ajouter « Nous nous régalâmes aussi de jambon d'ours et de saucisson d'ours. »
Qu'un concombre tienne lieu de victimes sacrifiées, alors les haines en parlent comme si c'était un bœuf. En s'exprimant ainsi, ils vont au-delà de la simple affirmation « le concombre remplacerait le bœuf ». Ils ne disent pas que le concombre est un bœuf quand ils se réfèrent comme à un bœuf à tel concombre particulier, en situation d'être sacrifié. Ils disent seulement qu'il est assimilable à un bœuf. Dans ce contexte particulier, ils agissent en conséquence.
comme ils le font quand la victime est un bœuf. Ils accomplissent chaque rite du sacrifice autant que possible. Un bœuf n'est pas un concombre, mais en concombre est un bœuf.
Théâtre des opérations. Des esprits dans la cage blanche dans la forêt, du fil à retordre. Cette chaise admirable est la placée à sa portée. Ce cadavre admirable est lui trouver un petit logement. Cette fée admirable est l'affecter poison. Fées ne comptent que si on les a. Fées, or il n'y pensait pas. Fée masque de sa nécessité, fée de par là où elle est. Nos flammes, nos téléphones, le bruit à gaz suffit, frisson dans son building. Et pour plus de sécurité, enveloppé de beaucoup de paquets chassant tout, à gaz de caoutchouc, vibration sur la caméra. Et sur quelques causes de l'état présent, valeur naufrage qui équivaut, il n'a que l'utilisation latérale d'un corps d'homme donné à la science. Un mon petit ami, le diminutif qui n'allait pas du tout, fait-il aucun effort pour ses vomir, unité 4, les configurations. Dimanche après-midi, conversation, au rien, un peu vidé, au pied de Saint-Jean, l'esprit s'accorde bien, l'appui des mains, sa dévotion. Utilise la fonction villageois inoccupé, commande vautour, reproduit dans les chairs, les importunités, les boules, l'aveuglement d'un spécialiste normalement installé, construit des tours d'observation qui allongent les origines de l'humanité.
Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir maintenant ?
Non, c'est
Ésope. Peut-être une fable d'Ésope, oui.
Je veux un animal.
Ouais, quel animal tu veux ?
Un animal mystique.
Tu viens du Haut-Rhin, tu t'as plu le sanglier peut-être ?
Ouais, voilà, le sanglier.
Est-ce qu'il y a le sanglier ? Oui, page 224. Fable 224.
20 minutes
ouais,
devant.
C'est surtout le petit aussi, il
marque à ça. Eh bien, fable 224.
Allez, on va écouter. Le sanglier et le renard. Un sanglier aiguisait ses défenses au pied d'un arbre. Un renard lui demanda pourquoi il les affûtait ainsi, alors que ni chasseur ni danger ne menaçait. « Ce n'est pas en pure perte, » répondit le sanglier. « En cas de danger, je n'aurai pas le temps de les aiguiser, mais je les trouverai alors prêts à l'emploi. » La fable enseigne qu'il faut prendre ses précautions avant l'heure du danger.
Voilà. Cette histoire a 2500 ans.
C'est beaucoup plus ancien que la fontaine.
C'est traduit du grec.
Voilà.
Ben merci.
Bonne promenade.
Un animal, c'est peu facteur pour rater les départs. Disposition, moi j'aime les renards. Clôture, sofa, sa préférence pour le motif si j'étais seul, autant réécouter la symphonie des patchs qui sont à son échelle. Une mise à feu et le récit se figure qu'il est temps, le bout des champs, la route des petites sollicitations. Réfléchissons au paysage, ce que font tous nos pouvoirs, les bras autour du cou, simple visite, et cesser sans difficulté. Nous distinguons notre conduite. Aperçu de rien jeunesse, moteur avec lancement nécessité, saluons a été le divin, par liaison cerclé d'or, encore que un tissu et l'isole, un mot puis répondant, tu la veux ta genèse, et la liste d'objets, c'est à cause du terrain.
J'ai la tête trop petite pour ce qui pousse à l'intérieur, ça pousse au front, j'imagine les polypes qui essaient de déployer leurs membres. Je les imagine comme du corail blanc, du diamètre au diamètre d'un doigt, essayer de se mettre à l'aise dans l'eau qu'ils me font produire autour d'eux, dans le devant de ma tête. C'est pour ça que c'est serré. Mais je ne les ai jamais vus, ou si, mais sans bien voir. Ils sont sur une plaque dans mon couloir que j'ai eue après avoir été dans un type d'hôpital. Le chat s'est mis sur le coin de la table, assis en théière, avec le socle plus mince que le milieu de la figurine. Il regarde dehors, moi aussi. Si j'écris trop la présence du chat autour de moi, sur le lit, sur la table, sur mes cuisses à Paris quand j'écris le soir, on va le lire et je deviendrai la énième écrivaine qu'on imagine avec un chat.
Buiai. Entilitamieio melitos, epecruentos, muiai prosptasai catestion. Dia ten blcuteta tu carpu, ucafistanto. Empagenton de auton ton pogrun, hos uc edunanto anaptenai, apopnigomenai efasan, athliai hemeis, hae diabracheian hedonen apolumetha. Huto polois he lichneia polon aitia cacon ginetai. Les mouches. Du miel s'était répandu dans un cellier. Des mouches y volèrent et se mirent à s'en délecter. La douceur en était telle qu'elles ne pouvaient s'en éloigner, mais leurs pattes s'y engluèrent, les empêchant de s'envoler, et se sentant étouffées, elles s'écrièrent « Pauvres de nous, nous payons de notre vie un plaisir fugitif. » De même, la gourmandise accable de nombreux maux ses nombreuses victimes.
Au manoir de cordialité, si tu dois envoyer le solo, voilà la grille nouvelle, la jeunesse, l'argenterie du grand art. Dans n'importe quel bois, le lion que tu viens d'enregistrer, le corps d'élite, il était enregistré sur tes brevets d'invention. En parlant de salut public caducé qui rame dans l'air, mais la princesse sortie de la troisième orange peut être rempotée et comme exotisme précis son navire poivre. Or voici ce château en Espagne, chacun gardant sa forme, aura danger sur la géométrie jaune d'ameublement, l'avertissant de prendre garde. Il y a un chemin d'herbe au rivage et qu'il a reçu la figure Nischwesen. Mais ces choses, dépendant de l'invention, l'auront mené dans le caractère des corps relevés et conversant entre eux, la nature du lieu doublé, contraint par des montagnes. Lui-même surpris, ne l'agitait pas davantage, son corps à vitesse solennelle rendu à la circulation, il l'accorde en adoptant, penses-tu trouver un beau terrier, une succession de blancs si frais en longueur en quelques plaines, s'affirmant radical à inventer comme il appartenait. Lentement, des flocons attaquent sa colère, des verres d'eau, les compliments qu'il reçoit, garde-feu minuscule sœur, récolte de terrain, lui tient en surface les fruits au marbre, inclusion dans le quartz promis au jeu cocktail pensée sauvage, il lui faudra rien de précis, et il fera rien de précis. Voyons, il voit courir et il voit par le nez l'air auprès du visage fumé, visible gesticulation mais ce pare-choc, avant c'est comme un toupet blanc veut dire, viser la tête seulement.
Qui vous a permis, demandent les vaches, d'avoir ces ventres et ces creux et ces longueurs musclées? Qui vous a permis, demandent les vaches, de manger poisson, viande, légumes, fruits, salades, oiseaux et de manger tant? Oui, qui vous a permis de dévorer enfants, chiens, frères, sœurs? Qui vous a permis d'avaler l'ombre du ciel et de la terre, le trèfle jaune, les fleurs d'automne, la bile noire et le sang de l'enfer, les si douces forêts, les temps morts? Qui vous a permis d'avoir des dieux, de multiplier les cultes de mort, de traquer la vie, de la mutiler, d'étouffer entre autres la vie avec des lois, des devoirs, des empires? Il est possible que les vaches étaient impressionnées, ou peut-être même effrayées, par le caractère inadéquat de toutes nos tentatives humaines lorsqu'il s'agissait d'exprimer ce qu'étaient pour nous les vaches. Il est possible que nous leur en ayons voulu atrocement pour cette unique raison.
Quelques tribus côtières de l'Australie septentrionale les ont pour emblème, ainsi que le tonnerre, la marée haute, et un petit oiseau qui protège les opérations de pêche, raie commune, losange, par ses nageoires pectorales soudées à la tête, les mêmes bandes de poissons, volant, s'enlevant comme des fous, avec leurs longues ailes humides et brillantes au soleil, telles des oiseaux d'acier, bleuis, silures, génies des eaux, raies chagrinées, âpres, amphiprions, sa vie dans l'anémone empoisonnée, à qui elle apporte des offrandes, raies âpres, ondulées, spatules, xyphoses combattants qui passent de l'état femelle à celui de mâle, dragon des mers, rendu invisible par des organes lumineux, raies chagrinées, âpres, raies à miroir ondulé, en choix dans l'eau, le jeune chaman rencontre esprit mi-femme, mi-poisson qui délivre les formules, sardines, raies ondulées à miroir de la famille requin, dont la majeure partie du cerveau sert l'odorat, suivre une odeur comme un avion, une onde, radio, tarpon, raies diable de mer surgit de l'eau pour tuer ses poux et parfois ses nouveau-nés, les vrais poissons, les poissons à oui, ne s'accouplent pas, spatule, raies électriques ou torpilles noires produit des décharges supérieures à 200 volts, panchax, perche, à miroir, platax, dans le panier où les poissons capturés palpitent vaguement encore avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées d'efforts impuissants et mous et de bâillements dans l'air mortel. Torpille, raie bouclée dans la vase caillouteuse, bouche par-dessus, œil en dessous. Si l'emblème est un poisson, silure, etc., tous les membres du clan croient avoir le poisson pour ancêtre, avoir en eux quelque chose du poisson. Et celui qui mange le poisson en devient un. Raies bœuf et à taches bleues sont bonnes en septembre et encore meilleures en octobre. D'ailleurs, l'homme ne sait bien souvent s'il est jeune chair ou vieux poisson.
Le jet et les oiseaux. Dans l'intention de couronner un roi des oiseaux, Zeus les assigne à tous à comparaître devant lui. Le jet, conscient de sa laideur, recueillit les plumes que les autres oiseaux laissaient tomber pour s'en revêtir. Au jour fixé, il se rendit chez Zeus, arborant son plumage multicolore, et déjà pour sa beauté, celui-ci allait le désigner comme roi, lorsque les oiseaux outrés firent cercle autour de lui et lui arrachèrent chacun la plume qui lui revenait. Dépouillé de la sorte, notre oiseau ne fut plus qu'un jet. Il en va ainsi des gens qui ont des dettes. Aussi longtemps qu'ils disposent du bien d'autrui, ils semblent être des personnages. Mais dès qu'ils l'ont restitué, on les retrouve dans leur état primitif.
Les vaches naissent libres et égales. Regardez-les dans un pré, avoir régulièrement leurs mouvements célestes et souterrains. Les vaches ne martèlent pas. Elles avancent par approximation, par dosages successifs, très paresseux. Rien ne leur est plus étranger que nos interminables exodes. Les vaches ne se doutent de rien. Merci.
Je ne l'ai pas dit avant parce que sinon ça allait saisir tout le monde, c'est que j'ai décidé de ne plus faire de performance et j'ai décidé aussi de ne plus écrire de la poésie. Évidemment, si je ne fais plus de performance, donc si je ne vais plus lire, je ne vais pas vous lire, en fait, je ne vais vous lire rien du tout. Alors évidemment, je me dis, est-ce qu'il fallait que je vienne ou que je ne vienne pas Alors je me dis, je vous dois de dire pourquoi j'arrête. Je trouve en fait que le fait de faire de la performance, comme le fait d'écrire de la poésie, dedans il y a un enjeu, enfin il y a quelque chose de risqué. Il y a quelque chose de terriblement risqué et je ne veux plus ce risque. Alors pour la poésie, c'est autre chose. Pour la poésie, en fait, je me suis rendu compte parce que suite à un travail de recherche en fait sur le monde de façon sociologique, sur la poésie contemporaine, que j'ai commencé à avoir des prises de conscience de ce que ça voulait dire écrire de la poésie. Et ça ne me convient pas parce que la poésie, en fait, c'est un monde clos, avec un sens qui n'est pas du tout un sens qui se laisse comprendre par les gens, donc qui n'est pas dans la communication, et au contraire dans la rupture de la communication. Et la rupture de la communication, c'est une rupture face au monde. Et cette rupture face au monde, c'est pas du tout moi qui l'ai désirée. Je me suis rentrée dans un circuit qui était la poésie comme on me l'a proposé. Sans doute ça devait correspondre à un état mental d'un moment. Mais en même temps, j'ai trouvé là-dedans qu'il y avait un effet de souricière. Et à partir du moment où il y a eu Rimbaud mal armé, il y a eu Flaubert aussi, il y a eu cette nécessité de couper la communication avec le monde extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est vraiment une position de souffrance, voilà. Et pour moi, la poésie contemporaine, à notre époque, c'est une position de souffrance. Ce rapport au monde, justement, lié à Mallarmé et à Rimbaud, qui a déterminé notre époque, en fait, et la manière dont on se positionne par rapport à la poésie.
Enfin, voilà, donc c'est un peu la réflexion que j'avais à vous dire, en fait.